Alors, 1620, un groupe de protestants évangéliques ont quitté l'Angleterre pour former une nouvelle société en Nouvelle-Angleterre, les Pères Pèlerins. Ils voulaient un meilleur avenir pour eux-mêmes et aussi pour leurs enfants dans un nouveau monde. Ils voulaient en quelque sorte refaire le monde. En 1789, la Révolution française a renversé la monarchie pour essayer de créer une nation meilleure. Plus égal, plus fraternel, plus libre. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a les Nations Unies qui tentent d'instaurer un ordre mondial dans le monde pour favoriser la paix. Est-ce qu'on peut vraiment refaire le monde? Est-ce qu'on peut faire table rase du passé? On nous dit qu'il faut apprendre des leçons du passé pour ne pas les répéter. Mais même si on étudie l'histoire, on a parfois l'impression qu'on retombe quand même dans les mêmes travers. Alors, le livre de la Genèse, c'est le premier volet de 5 livres qui ensemble forment le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible sont en réalité un seul livre, écrit essentiellement par Moïse et donné au peuple d'Israël qui se trouvait à l'époque, après la sortie d'Égypte, après 40 ans d'errement dans le désert, sur le point d'un nouveau départ, sur le point d'entrer dans la terre promise. Une terre bénie par Dieu. Une terre où ils allaient habiter avec Dieu, avec son tabernacle au centre. Mais Moïse sait bien qu'ils ont besoin d'étudier le passé pour comprendre le présent, pour comprendre l'avenir. Parce qu'il y a là d'importantes leçons pour le peuple. Et on verra que ces leçons sont tout aussi importantes pour nous au XXIe siècle, pour l'Église de Jésus-Christ, nous qui vivons dans le même monde qu'eux, sur la même terre. Et qui, dans l'attente, par la foi, attend l'arrivée aussi d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. On va voir ces leçons dans Genèse chapitre 3 et dans les versets 1 à 24. Donc je vous invite à lire ce passage. Genèse 3 à la page 4 dans les Bibles blanches de l'Église. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Il m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dis à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui y dominera sur toi. Dis à la femme, à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme. et les leurs mis. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, et d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et agit une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc jusqu'ici, notre lecture pour ce matin. Alors, où est-ce que nous en sommes dans le récit de la Genèse? Il y a 2 semaines, nous avons vu comment Dieu a tout créé de manière souveraine, de manière ordonnée, structurée, intentionnellement, parce qu'il est véritablement le Dieu souverain de l'univers, qui crée, qui règne par sa parole. Et on a vu que l'humanité est la cime, le sommet de sa création, beaucoup plus qu'un animal évolué. L'homme est créé à l'image de Dieu, créé pour le représenter et pour l'adorer, le connaître et l'adorer. Ensuite, la semaine dernière, Moïse, au chapitre 2, nous a parlé plus spécifiquement de notre relation avec Dieu. On a vu comment Dieu a pris soin de nous, prend soin de nous. Il nous a donné un jardin qui, en quelque sorte, sans que le mot soit là, ressemble à un temple, un lieu béni de communion avec Dieu. Et même l'arbre de la connaissance du bien et du mal faisait partie de cette communion, parce que cet arbre était bien l'occasion pour l'homme de faire confiance à Dieu son Père. Comme un enfant fait confiance à ses parents, qui lui veulent que du bien. Mais ce matin, dans le récit que nous avons devant nos yeux, le texte, la Bible nous parle de la manière dont ce paradis fut perdu. Et ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Et on va voir d'abord la folie de notre désobéissance, suivie de notre vie sous le jugement de Dieu. Et en dernier, l'urgence de saisir une promesse par la foi. La folie de notre désobéissance, notre vie sous le jugement de Dieu et une promesse à saisir par la foi. Donc d'abord cette folie. Une folie que je pense nous connaissons tous, même intimement. Au verset 1, on lit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. » Alors, qui est ce serpent? Ailleurs, la Bible parle de lui comme le tentateur. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui a fait usage d'images et de symbolisme, l'identifie comme Satan, comme le diable. Y a-t-il une part de symbolisme ici dans notre texte? Peut-être, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel à retenir, c'est qu'il s'agit bien d'un récit historique, une tragédie qui a bien eu lieu. Ce serpent ainsi que Satan est une créature de Dieu. Donc c'est Dieu qui l'a créé. Il n'est pas un contrepoids à Dieu, comme si dans l'univers il y a deux puissances, Dieu et Satan. Il ne faut pas voir le mal, le bien et le mal de manière manichéenne, dualiste. Et pourtant Dieu, la Bible l'affirme à de multiples reprises, n'est pas l'auteur, le créateur du mal. On va voir dans ce passage que, au contraire, le mal s'affirme comme un ennemi de Dieu, comme celui qui s'attaque à lui. En tout cas, Moïse invite ses lecteurs à voir clair. Nous sommes dans une lutte spirituelle, cosmique. Et en tant que la cime, le sommet de la création de Dieu, l'humanité, nous sommes dans la ligne de mire du diable. Le diable s'attaque à Dieu, s'attaque à sa création en s'attaquant à l'homme, à l'humanité. C'est aussi pour ça que dans notre Père, la prière que Jésus nous a apprise, Jésus nous rappelle notre besoin de prier Dieu et de lui dire « Protège-nous du malin, du mal ». Et l'apôtre Paul lui-même nous exhorte à nous défendre en nous revêtant des armes de Dieu, à savoir l'Évangile. Alors comment est-ce que Satan, ce serpent, comment est-ce qu'il est tombé? Il n'y a pas d'explication ici. Pourquoi le mal? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ça se passe? Henri Blanchet de la Fac de Vaud parle du mystère opaque. On ne sait pas. Voilà, ça appartient à Dieu, cette connaissance-là. Nous, on ne sait pas. Ce qui va suivre, en tout cas, dans ce récit, Genèse chapitre 3, c'est une véritable mise à sac de la bonne création bénie de Dieu. Et comment est-ce que le serpent le fait? Quelle est sa tactique? Il s'attaque à la personne de Dieu en s'attaquant à sa parole, ce qu'il a dit. Toujours dans le verset 1, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. C'est subtil, il s'attaque à la parole de Dieu. Il invite même la femme à se mettre en position de juge sur la parole de Dieu. Et il exagère, il déforme ce que Dieu a dit, parce que Dieu n'a rien dit de la sorte. La femme, Ève, le contredit, mais le serpent répond à Ève en rajoutant une couche supplémentaire. Verset 4. Vous ne mourrez absolument pas. Et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors c'est subtil parce que le serpent mélange ce qui est vrai avec ce qui est faux, avec un mensonge pur. Parce que les yeux d'Adam et Ève vont s'ouvrir, on va voir ça à la fin du passage. Mais la mort intervenait quand même. C'est toujours le cas que les mensonges les plus efficaces sont mêlés d'une part de vérité. Mensonge et vérité, ou fausseté et choses vraies ensemble. Et le serpent, fondamentalement, est en train de présenter Dieu en s'attaquant à sa parole. Il est en train de présenter Dieu comme un trouble-fête, comme un radin, grincheux, peu généreux, comme Blanchet dit, comme l'auteur d'une monstrueuse privation. Monstrueuse privation. Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, Dieu a généreusement donné toute la création à l'humanité, avec certes la seule exception de cet arbre au milieu, et sinon toute la création. Et donc, ce qu'on a ici, c'est une invitation à croire un mensonge à l'égard de la personne de Dieu. Adam et Ève ne sont pas encore passés à l'acte de la transgression, mais on voit que le serpent a déjà semé les germes qui vont porter ce fruit-là. Parce qu'un homme qui croit que Dieu est un menteur, une femme qui croit que Dieu est finalement peu généreux, qui ne veut pas notre bien, ne cherche pas notre bien, va forcément, un jour ou l'autre, finalement, mettre de côté la loi de Dieu. Et quand on réfléchit à nos propres fautes, à notre impatience ou à nos colères injustifiées, jalousie, notre amour de l'argent, l'immoralité sexuelle. En fait, toutes ces choses découlent au fond d'une fausse foi, d'une fausse connaissance de Dieu, une connaissance faussée de Dieu, de mensonges finalement que nous avons cru, peut-être sans le savoir, des mensonges dans nos cœurs qui nous disent que notre Dieu n'est pas fiable, n'est pas souverain. Il ne voit pas ce que nous faisons, il ne s'intéresse pas à ce qu'on fait, il ne pourvoit pas à nos besoins ou qui ne va pas juger le monde. Et on a cru ces mensonges. C'est ça ce qui donne lieu à ce que nous faisons. Nous sommes, je suggère ici, en train d'assister à une scène de pure folie. Adam et Ève n'ont aucune raison de douter de Dieu. Il est leur bon créateur. Il leur a donné tout. Pourquoi est-ce qu'ils croient un serpent? Pourquoi est-ce qu'ils croient un animal à la place de leur créateur? C'est une révolte absurde. En plus, comment est-ce que la créature peut s'opposer à la volonté de son créateur tout-puissant? À qui doit son prochain souffle? C'est un peu comme si le petit pays d'Andorre, dans les Pyrénées, déclarait la guerre à la fois à la France et à l'Espagne. En même temps, ben ça serait insensé, absurde. Comment est-ce qu'on peut déclarer, croire qu'on peut être, qu'on peut dire non à la loi de Dieu? C'est une folie absurde pour le serpent et aussi pour l'humanité. Et cette folie, on ne la connaît que trop bien, n'est-ce pas? Parce que nous-mêmes, on est atteint de cette folie. On défie le Créateur de multiples manières, même en tant que chrétien. Pourquoi est-ce qu'un chrétien qui connaît la grâce, qui connaît Dieu comme son Père, qui sait que Dieu est saint et un juge impartial, pourquoi est-ce qu'il va quitter sa femme pour une autre? Pourquoi est-ce qu'il va mentir sur son CV? Pourquoi est-ce qu'il va se livrer à la médisance en Église? Et on tombe dans plein de choses. C'est de la pure folie. Disons le verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est un verset qui parle du désir, la tentation, le désir. Elle voit, non pas le désir sexuel, c'est pas ça, certains ont essayé de faire dire ça au passage, mais c'est pas ça, c'est un désir d'une toute autre nature. Le serpent a promis à la femme que le jour où ils en mangeront, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont être comme Dieu, ils vont avoir une sagesse, une intelligence. Ils vont connaître le bien et le mal. Ils vont être comme Dieu. On a vu la semaine dernière que cette expression « connaître le bien et le mal » ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal renvoie à la notion de choisir ou de déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. En fait, c'est une question de faire la loi nous-mêmes, d'être notre propre loi. Être notre propre chef, d'être autonome, être le chef, bien sûr, à la place de Dieu, faire déclarer ou avoir notre parole à la place de la parole de Dieu. Ce que le serpent propose, c'est un coup d'État contre Dieu, contre son règne. On va voir que c'est un coup d'État illusoire, comme bien des coups d'État qu'on voit dans ce monde. Voué à l'échec. Ce désir d'autonomie, c'est un désir profondément orgueilleux, profondément idolâtre. On veut être nos propres petits dieux. C'est quelque chose qui gangrène nos vies, qui gangrène nos mariages, qui gangrène notre vie au travail, même la vie à l'église, nos amitiés aussi. On est atteint de cette folie orgueilleuse. Et parce qu'on est atteint de cette folie orgueilleuse, on passe à l'acte, comme Ève, comme Adam. Jusqu'ici dans le texte, c'est Ève qui a été mise en avant. Voici 6, on voit que Adam y était aussi. Il a suivi sa femme. Il n'a pas résisté. Il n'a pas aidé non plus. Il ne lui a pas dit « Non, 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 Ève, c'est pas ce que Dieu a dit. » Il n'a pas aidé. Il a manqué singulièrement à sa responsabilité que chef de la famille. C'est pour ça que dans la suite de l'écriture, c'est lui, Adam, la faute d'Adam. C'est lui qui porte la responsabilité collective. Verset 6, qu'est-ce qui se passe? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Voilà, la parole de Dieu, sa loi a été bafouée. C'est ça le péché, c'est la désobéissance à la loi. Toutes ces choses avant, mais finalement ça donne ça, cette transgression de la volonté divine. Au lieu d'affirmer haut et fort la joie d'être à Dieu, d'être dépendant de lui, au lieu d'affirmer la confiance en le Créateur, sa bonté, l'homme et la femme renversent la parole. C'est comme si Moïse veut que les Israélites réalisent au plus haut point à quel point le péché est une folie, malheureusement une folie dont même l'éducation ne peut pas nous débarrasser. Il faut que nous en soyons conscients nous aussi, nous livrons à cette folie nous aussi. Il faut qu'on réalise aussi qu'on est dans un combat contre le père des mensonges, le diable. Et seulement la vérité, seulement Christ qui est la vérité, nous rendra libres, nous aidera à voir clair. Et il, Christ, nous invite à prier Dieu, protège-nous du mal. On est bien faible. Moïse veut que les Israélites en soient conscients et que nous en soyons conscients. Alors à partir du verset 7, tout change. Tout change dans le monde et pour nous, personnellement. On découvre un monde avec lequel on est tristement familier. On est à notre deuxième section, donc, notre vie sous le jugement de Dieu. Le serpent, en leur promettant la connaissance, a dit vrai en partie. Et cette connaissance, cette sagesse, ne nous a pas donné la liberté escomptée, ne nous a pas donné l'émancipation. Loin de là, loin de là. On voit que leurs yeux à tous les deux s'ouvrir, mais ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte qu'ils sont bien fragiles, qu'ils sont bien petits face à leur Créateur, face à celui contre qui ils ont mené une révolte absurde. Alors le terme « la honte » n'est pas dans notre passage, mais on le voit au verset 25 du chapitre 2. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et ici, nus et honteux devant Dieu. Et aussi peureux devant Dieu. Verset 9, Adam dit à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » La honte donc devant Dieu, la peur devant Dieu. La relation avec Dieu est totalement cassée. Et dès cet instant, l'homme était en fuite. Et c'est vrai aujourd'hui. Les paroles de Dieu font fuir. L'homme invente de multiples stratagèmes, stratégies pour éviter de faire face à Dieu, de penser à Dieu, de lire sa parole. Ça peut être le mépris. « Ah, oh, j'ai pas besoin de tout ça, je suis pas faible moi. » La fuite, je pensais à tout ça quand je suis vieux. Ou qu'est-ce que mes amis penseraient de moi si je lisais la parole? Je pense que devant Dieu, chacun de nous, même si on n'est pas forcément conscient, on sait qu'on est en faute. Il y a cette honte. On est des créatures vulnérables, exposées devant Dieu. On éprouve cette honte, cette peur de notre culpabilité, la peur du jugement. On préfère nous cacher. Quand on est en train de partager la foi, évangéliser, on est face à des personnes qui, même s'ils ne le savent pas, elles ne le savent pas. Il y a cette honte, cette peur qui font qu'ils essayent de s'enfuir. On a besoin de l'aide de Dieu, de son esprit. Et ça arrive aussi à des chrétiens. La honte, la peur, parfois ces choses reviennent, ressurgissent. Plus souvent, c'est quand on a besoin de revenir à Christ. Revenir à Dieu et confesser nos fautes. Nous réfugier en Christ. Et revoir qu'en fait, en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Que nous avons été revêtus de sa vie fidèle. On a déjà en lui la pleine approbation de Dieu. Dans ce qui suit, il y a une rencontre entre Dieu et l'humanité, un face-à-face. Et quelque part, ce qu'on va voir, c'est un peu le pendant de ce qu'on voit à la fin de la Bible, le jugement dernier. Parce que dans ce passage, on a le premier jugement. Verset 9, « Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? Où es-tu ?» Alors, c'est Adam qui est appelé en premier parce que C'est à Adam que Dieu a donné cette loi. Ève n'avait pas encore été créée. C'est Adam qui a été fait chef de cette nouvelle famille. Il a une responsabilité particulière, mais en fait, Adam ne connaît pas le sens de ce mot « responsabilité ». Et c'est souvent le cas aujourd'hui pour nous hommes. Verset 12. L'homme répondit. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Il commence à blâmer sa femme. Plus aucune solidarité dans son couple. Et pire que ça, je pense que Adam est en train d'accuser Dieu de manière oblique. Ça serait sa faute. La semaine dernière, on a vu que la femme, c'était un super cadeau que Dieu a donné à l'homme et l'homme était dans la joie. Adam était dans la joie. Mais Genèse 3, c'est la faute de Dieu, c'est lui qui lui a donné cette femme. Et follement, Adam se justifie en quelque sorte devant Dieu. Il se pose même en victime devant Dieu. C'est pas ma faute, c'est sa faute. Et en fait, ultimement, la faute de Dieu. Et Ève fait à peu près la même chose. C'est la faute du serpent. Tout en eux crie, c'est pas ma faute. Et c'est ce qu'on fait aussi nous-mêmes. On essaie de nous justifier. Et c'est une stratégie complètement folle. Cette stratégie de la victime devant Dieu. Que faire? Le roi David, bien des années plus tard, après avoir commis lui-même un viol et un meurtre, nous montre le chemin. Psaume 51. Qu'est-ce qu'il dit? Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà l'honnêteté devant Dieu. Dans la suite de ce passage, le juge, Dieu, émet sa sentence, après avoir appelé, suivant l'ordre de la création, Adam et ensuite Ève à la barre, il émet son jugement, sa sentence. D'abord sur le serpent, ensuite sur Ève, finalement sur Adam. C'est finement conçu ce récit. Et on voit l'apparition du mot « malédiction ». Au chapitre 1, au chapitre 2, c'était que de la bénédiction. Et maintenant, chapitre 3, « malédiction », « maudit ». Et ces mots sont très importants pour la suite de la Bible, pour bien comprendre la suite de la Bible. Le serpent est maudit. Alors Ève n'est pas maudite directement. Et elle est touchée de plein fouet dans sa fémininité, dans ce qui devrait être une bénédiction. Le fait d'accoucher, d'avoir des enfants. Bon, la bénédiction n'est pas enlevée, mais juste atteinte, frustrée. En plus, sa relation avec son mari est atteinte. À la fin du verset 16, on lit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Donc le mariage, cette communion qu'on a vu la semaine dernière, cette confiance mutuelle est rudement secouée. Adam non plus n'est pas maudit directement, ça c'est la grâce de Dieu. Mais c'est la terre, le sol, qui est maudit pour que son travail soit frustré. Dieu le touche aussi quelque part au cœur de sa masculinité avec le travail. À la fin du verset 17, on lit « C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Et donc nous aussi, on vit dans ce monde soumis à la frustration. On a longuement parlé de cette frustration dans notre série sur l'Ecclésiaste l'année dernière. Notre relation avec Dieu, notre relation les uns avec les autres, les relations familiales dans le mariage et dans la famille, notre relation au travail. On pourrait tous témoigner, je pense, de choses pénibles, de choses lourdes. Et la suite de ce passage nous montre quelque chose encore plus pénible. Celle de l'exclusion, de l'exil, loin de Dieu, loin de sa face, avec la perspective ultime de la mort. Verset 23 et 24, « Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. » Et le verset 19, « Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et Moïse, ou plutôt Dieu par Moïse, je pense qu'il veut nous montrer, il veut montrer aux Israélites l'impossibilité du retour. En tout cas, par nos propres moyens. La Nouvelle-Angleterre, la République française, les Nations Unies. Oui, on veut bien refaire le monde. On essaie de faire ça. Et bien sûr, c'est important de faire le mieux qu'on peut. Mais Dieu a maudit cette terre. C'est lui qui nous a exclus du jardin, de sa présence bénie, de l'arbre de la vie. Et nous, êtres humains, nous sommes incapables de défaire ça. On peut améliorer notre sort provisoirement. Des bonnes pratiques agricoles, un péridural lors d'un accouchement. De bonnes choses, ça fait partie de la création. Dieu nous a donné l'intelligence pour faire ces choses. Mais il n'y a que Dieu qui peut défaire cette malédiction, restaurer la bénédiction. Il n'y a que lui qui peut effacer notre honte. Il n'y a que lui qui peut bannir la peur de lui. La psychologie peut nous aider ici ou là, il y a des choses à apprendre. Mais fondamentalement, notre honte, c'est devant Dieu. Notre peur, c'est du jugement de Dieu. Alors le peuple d'Israël était sur le point d'entrer dans la terre promise. Une terre d'abondance. Ce peuple était devenu nombreux, béni. Il voulait vivre dans cette terre promise avec Dieu, avec ce tabernacle, en rappelant au peuple ce que Dieu avait donné au début et ce qui a été perdu. Et comme si Moïse leur disait que dans sa grâce, Dieu, parce que lui qui peut le faire, Dieu était en train de restaurer ce qu'il avait donné au chapitre 2 de la Genèse, mais que de manière très limitée. Et il leur rappelle cette séduction fatale, cette chute fatale, pour leur rappeler leur faiblesse. Et en fait, Moïse est allé beaucoup plus loin que ça, parce que si on lit la fin du livre du Deutéronome, la fin de la Pentateuque, Moïse explique à ce peuple qu'ils ne vont pas pouvoir rester dans cette terre promise. Eux-mêmes, ils vont chuter, ils vont désobéir à Dieu. Eux-mêmes, ils vont être chassés loin de sa présence, loin de cette terre, en exil, parce que l'homme est faible. Et la folie de cette révolte absurde est ancrée dans nos cœurs. Et c'est tout aussi vrai pour nous-mêmes. On ne va pas connaître la bénédiction par notre obéissance, par notre tentative d'obéir à Dieu, par notre performance morale. On en est incapable. Et ce passage nous l'annonce, je pense. La rappelle aux Israélites, comme à nous, bien des siècles plus tard. Mais je pense que si on est prêt à accepter ça, si on voit qu'on est si faible, incapable de changer la donne, incapable de refaire le monde, il y a de l'espoir. Si nous sommes prêts à chercher de l'aide ailleurs qu'en nous-mêmes, il y a de l'espérance. Pour eux comme pour nous. Et je termine avec cette espérance, une promesse à saisir par la foi. On voit la grâce partout dans ce passage quand même. Dieu revêt Adam et Ève de vêtements, de peaux d'animaux. Et en particulier, il leur donne une promesse. C'est la première annonce de l'évangile. C'est le verset 15. Ce verset 15 évoque un jour où la tête du serpent, du malin, sera écrasée. Je relis ce verset. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu, de manière poétique, si d'une manière un peu cachée, parle d'un jour futur quand la descendance d'une femme, un fils d'Ève, mettra fin à la puissance du malin. Ça lui coûtera cher, il sera blessé au talon. Mais enfin, la tête du serpent sera écrasée. Ça veut dire que le serpent n'aura pas le dernier mot. On est ici dans une lutte cosmique, le diable qui veut s'attaquer à Dieu en s'attaquant à sa création, à l'humanité. Satan veut avoir la victoire, mais d'ores et déjà, Dieu a déjà annoncé. Non, la victoire sera la sienne, celle de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de la Bible. Dans la suite de la Genèse, comme dans la suite de la Bible, nous sommes, en la lisant, à la recherche de cette descendance, à la recherche de cette semence, c'est le terme littéral qui va revenir. On est à la recherche de ce fils d'Ève par qui Dieu va remporter la victoire. Mais comme on va voir dans les semaines qui viennent, aucun homme va faire l'affaire. Et l'Écriture nous montre que de manière voilée, ce verset, le verset 15, nous parle de Jésus-Christ. Pleinement homme, aussi pleinement Dieu. Au début de son ministère, on voit Jésus tenté dans le désert pendant 40 jours par le diable qui déforme la parole de Dieu. Et Jésus résiste. Jésus ne pêche pas là où Adam et Ève ont péché. Et finalement, à la fin du ministère de Jésus sur cette terre, on voit sa victoire. Cette victoire, il la remporte sur la croix. Comment? Dans la faiblesse, dans le service, en mourant de manière sacrificielle. Parce que son sacrifice couvre les fautes de son peuple. Son sacrifice satisfait de manière parfaite la justice divine. Et ça pour que tous ceux qui se réfugient en lui, qui mettent la confiance en lui, puissent être lavés de la faute, puissent retrouver la pleine approbation de Dieu, être justifiés, être lavés de la honte, connaître l'honneur d'être ses enfants, connaître l'accueil favorable de son Père. Le diable voulait détruire la création de Dieu, il voulait détruire l'humanité. Il l'a fait en s'attaquant à la parole de Dieu. Mais à la croix, c'est échec et mât pour lui, par Christ. Je pense que globalement, ce passage nous invite à l'humilité et à la foi, à la repentance et à la foi. C'était son message pour les Israélites sur le point d'entrer dans la terre promise et sur le point de passer le Jourdain. C'est vrai pour nous aussi. Nous sommes bien faibles. Nous sommes bien vulnérables à ces mensonges parce que nous sommes orgueilleux. Parce qu'on veut être ces mini-dieux. On veut régner à la place de Dieu. On est atteint de cette folie, la folie de ces grandeurs. Aussi, on cherche bêtement des pansements humains. On essaie de gagner, regagner sa faveur par nos œuvres, ce que nous faisons. Mais Dieu nous invite à la confiance en sa promesse, la foi en ses promesses. C'est lui seul qui peut défaire cette malédiction. Et comme on voit dans la suite des Écritures, il a fait en Christ par la croix. Nous avons ces bénédictions, toute bénédiction en Christ, Éphésiens 1. Quand Jésus-Christ en redécouvre, en fait, les écailles tombent de nos yeux. On voit à quel point notre Dieu est bon et fiable, miséricordieux, qui ne veut que du bien. Alors j'aimerais terminer en vous invitant à la prière, une prière de repentance et de foi. Ça peut être une prière de repentance que vous dites à Dieu pour la première fois peut-être dans votre vie. Pourquoi pas? Je ne peux que vous encourager à être comme le roi David, de peut-être prendre le psaume 51, peut-être, pourquoi pas, reprendre ce psaume à la maison, aussi pour le lire devant Dieu. David, qui était si honnête, si clair, et qui, avant l'heure, a pris refuge, a cherché refuge en Christ. Donc, prions. Merci, notre bon Père Céleste, pour ta bonté. Tu es bon, tu es généreux. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te dire pardon, parce que nous sommes, comme Adam et Ève, atteints de cette folie. Nos cœurs croient ces mensonges à ton égard, parce que nous voulons être à ta place. Et même en tant que chrétiens, nous retombons dans ces mêmes travers, jour après jour. Donne-nous de voir par ta parole, par ta vérité, la folie de nos désirs. Délivre-nous de cette folie, t'en prie. Fortifie-nous, protège-nous du malin. Et donne-nous, même cette semaine, à suivre ton Fils. Donne-nous la force en lui de dire non à ce qui te déplaît, à suivre Jésus sur les chemins de la vie. Père, tu vois les mensonges que nous avons crus, et peut-être des mensonges dont nous ne sommes même pas conscients, et qui polluent, qui contaminent notre vie, nos relations. Père, que ta vérité, que ta parole nous libère et nous délivre. Et Père, nous avons besoin de ton aide, de l'œuvre de ton esprit. Nous sommes devant toi dans la dépendance. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.